Mesdames et messieurs, c'est un privilège pour moi de prendre la parole ce soir. Je suis très heureux de saluer parmi nous la présence de notre chef de département, Madame Monica Merefti, qui, malgré son agenda très chargé, il faut le dire, puisqu'elle assume également la présidence du Conseil d'État, celle du comité stratégique de la HEP Béjune et enfin celle de la conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. Alors, ça, c'est un cadeau que de la saluer, mais si vous avez des récriminations, il faut le faire, parce que c'est rare d'avoir quatre casquettes sur la tête d'une seule personne. J'ai le plaisir de vous transmettre aussi les salutations du service de l'enseignement obligatoire, et puis j'aimerais aussi vous exprimer toute ma gratitude pour le travail que vous faites au quotidien au profit de nos élèves. Je tiens également à remercier M. Pierre Pétinia de la Haute École Pédagogique Béjune, ainsi que Mme Christiane Drault-Gilliot, inspectrice de l'enseignement obligatoire, qui est titulaire du dossier de l'évaluation, et c'est eux qui ont proposé cette conférence. Je les remercie. J'adresse aussi toute ma reconnaissance à M. Jean-Marie de Quetelet, docteur en psychopédagogie, spécialisé en évaluation, qui a accepté d'évoquer cette thématique qui nous touche toutes et tous, et ceci dans une semaine marathon, puisqu'il revient de Téhéran, il va repartir à Fribourg, ensuite à Paris, et puis on vous le présentera plus en détail tout à l'heure. Je me réjouis d'ores et déjà, cher monsieur, de vous entendre. Si vous êtes là ce soir, mesdames et messieurs, c'est que le domaine de l'évaluation vous intéresse d'une part, mais qu'il vous interpelle sans doute aussi d'autre part. Lorsqu'on aborde des questions d'évaluation, on aborde en même temps une réflexion sur les activités que l'on propose aux élèves. L'évaluation du travail des élèves, c'est un sujet sensible et complexe qui suscite des attentes très diverses. L'enseignante, le parent, l'élève, le directeur d'école ou la conseillère d'État en charge de l'instruction ne voient pas le même côté des choses. Il s'agit donc de rechercher ensemble les meilleures modalités possibles pour répondre à toutes les attentes afin que chacun se comprenne. Plus qu'une note, une appréciation, le dialogue direct, bien souvent, permettra à l'enseignante de renseigner les parents sur les résultats d'un élève. L'évaluation joue aussi un rôle très important dans les apprentissages de l'élève et peut influencer son parcours de formation, vous le savez. Aujourd'hui, les défis importants s'énoncent à l'échelle planétaire. Nos élèves devront tout réinventer, ou presque. Cela va des structures, en passant par les institutions, les services à la population, le vivre ensemble, les moyens de communication ou l'approche de la laïcité. Ils devront apporter des réponses à des questions et des problèmes qui n'existent pas encore, mais pour le moins, ils devront apporter des réponses concrètes aux questions relatives à l'eau, la faim, la santé, les clivages entre les pays riches et les pauvres ou le terrorisme. Bien entendu, ces questions ne sont pas exhaustives. Par conséquent, nos élèves, pour relever ces défis, devront acquérir des connaissances fondamentales, lire, écrire, calculer, s'exprimer dans sa langue et dans celle du voisin, peut-être en chinois aussi, mais ils devront aussi développer des compétences pour appréhender ces enjeux de société. Durant cette période de changement, sur tous les plans qui touchent l'ensemble des cantons et l'ensemble des strates du système, en passant bien évidemment par les enseignants et les enseignantes, il est nécessaire de retrouver et de trouver les repères utiles pour nos élèves, évaluer leurs connaissances et leurs compétences. Dans la déclaration de la conférence intercantonale d'instruction publique, qui date de 2003, il est dit que l'évaluation est indissociable de l'apprentissage en tant qu'instrument de la régulation du progrès de chaque élève. Cette conférence, ce soir, va dans le bon sens, puisqu'elle permettra de soutenir les réflexions entamées dans les centres scolaires. Et là, je remercie les équipes dans les directions d'école qui portaient ce dossier sur le thème de l'évaluation des compétences. Pour relever les défis évoqués, entre autres, et ceux qui sont à venir, les programmes ont été revus, le plan d'études a été introduit. Le PER indique ce qui doit être enseigné. Les objectifs d'apprentissage y sont décrits. Un élève développe des compétences lorsqu'il agit et notamment lorsqu'il est appelé à exécuter des tâches complexes à l'école. Dès lors, de nouvelles questions se posent à nous. Comment évaluer des compétences, comment s'assurer de l'atteinte des attentes fondamentales pour chaque élève, comment observer le développement ou l'acquisition de compétences, quels outils utiliser, comment utiliser les observations pour permettre à l'élève de progresser, comment, quand et pourquoi informer les parents. Les réflexions ont déjà commencé dans le cycle 1 et en cinquième année. Il est important de poursuivre les collaborations entre le service des directions d'école. Je remercie aussi les animatrices. Est-ce qu'il y a des animateurs ? Les animatrices, elles sont courageuses, ces dames. Ça plaira à notre chef de département parce qu'elle le soulignera toujours. Alors, je pense que M. De Ketelet va pouvoir nous aiguiller, nous bousculer, peut-être un peu, afin d'entamer ou de poursuivre nos réflexions personnelles sur la question de l'évaluation. Il va sans doute repréciser certains concepts tels que l'évaluation formative, l'évaluation certificative ou la notion de compétence. Nous avons tous, et je terminerai par là, nous avons tous des repères par rapport à l'évaluation, et souvent on entend « c'était mieux avant ». Alors permettez-moi de terminer par une citation de Denis de Rougemont qui disait « il existe des gens qui s'attendrissent sur leurs souvenirs de classe, c'est qu'ils les confondent avec ceux de leur enfance et les font indûment participer à la même grâce. » Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à M. Pétigna pour nous présenter le conférencier de ce soir.
Voilà, chers collègues, j'ai beaucoup de plaisir à me retrouver ici ce soir avec vous tous et toutes pour nous poser des questions et avoir quelques pistes de réponse de notre conférencier sur l'évaluation et sur, comme il a intitulé son intervention, l'évaluation des compétences, passer d'une posture de contrôle à une posture de la reconnaissance. Et tout le programme de la soirée est annoncé par ces quelques mots. Jean-Marie de Ketel est docteur en sciences de l'éducation, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, de l'Université de Dakar et de la chaire de l'UNESCO. Intervenant dans de nombreux contextes de formation en Europe ou ailleurs, il travaille depuis plus de 30 ans sur la problématique de l'évaluation. J'ai eu l'occasion d'apprécier sa rigueur et sa clarté dans le propos au cours d'une quinzaine d'années de collaboration au sein de l'ADME, l'Association européenne pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation, organisme qu'il a fondé avec des collègues comme Linda Halal de Genève, que certains d'entre vous connaissent probablement, ou Jean Cardinet, ancien directeur de l'IRDP ici à Neuchâtel, qui vient de nous quitter. Jean-Marie de Ketel n'a pas étudié l'évaluation seulement de l'extérieur, il a aussi beaucoup pratiqué comme professeur de l'enseignement général et technique et professionnel. Il l'a expérimenté en tant que professeur à l'université et a accompagné des équipes d'enseignants sur ces questions cruciales. Il est régulièrement appelé à expertiser des systèmes éducatifs. Il est intervenu sur ces questions d'évaluation dans diverses formations. On lui connaît des interventions remarquées dans des contextes aussi différents que les réalités congolaises, malgaches, belges, canadiennes et autres, ou suisses, auprès d'enseignants, de chercheurs ou de responsables d'administration scolaire. Dans notre région, il est intervenu plusieurs fois, notamment dans le cadre de l'IRDP ou de la HEP Béjun. C'est donc tout autant un praticien qu'un théoricien que l'on entendra ce soir. Au terme de sa conférence, on aura l'occasion de l'interpeller, de lui poser des questions, de le remettre en question aussi par nos interpellations et nous bénéficierons de ses réflexions. Je lui passe donc la parole à toi, Jean-Marie.
Tiens d'abord à remercier Pierre, qui est à la base de cette invitation, et je vous remercie d'être très nombreux à être présents et à réfléchir ensemble sur cette problématique de l'évaluation des compétences et sur la posture à adopter face à cette approche. Je tiens beaucoup à dire d'emblée que je ne suis pas un gourou de l'évaluation. Je suis simplement, comme l'a dit Pierre, d'abord un praticien de l'évaluation, un praticien aussi de l'enseignement, comme il a dit, notamment au niveau de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel, avant de faire une carrière universitaire. La carrière universitaire m'ayant permis de mener des travaux sur l'apprentissage, sur l'évaluation des apprentissages, et surtout aussi de rentrer en contact avec d'autres chercheurs et experts dans le domaine. Et c'est un peu de tout ça que je vais m'inspirer pour essayer de répondre le plus possible aux besoins qui m'ont été communiqués par Madame Drouf, que je remercie beaucoup. Je vais rappeler ces besoins en résumé dans une dia. Mais auparavant, je voudrais simplement vous montrer trois citations qui me tiennent fort à cœur et qui peut-être peuvent nous inspirer par la suite. C'est Albert Einstein, j'ai lu un très beau livre sur Albert Einstein qui disait « Tout le monde est un génie ». Et il le croyait véritablement. Et je crois aussi que tout le monde est un génie. Tout le monde, quelque part, a un ou plusieurs pôles d'excellence qui lui est propre. Le problème majeur, souvent, dans les systèmes scolaires, c'est qu'on ne fait pas attention à révéler ces pôles d'excellence qui sont en chacun d'entre nous. C'est vrai aussi, d'ailleurs, pour les enseignants ou les fonctionnaires dans différents départements au ministère. Est-ce qu'on leur donne l'occasion, est-ce qu'on me donne l'occasion de révéler le pôle d'excellence quelque part qui est en nous? C'est quelque chose à laquelle je crois et qui me semble très important quand on est enseignant, quand on est éducateur, quand on a une responsabilité. Mais ajoutez aussi Einstein, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et donc, le problème, c'est de trouver où se trouve le pôle d'excellence de chacun d'entre nous. Il ne faut pas essayer de le chercher là où il ne se trouve pas. Et je reviendrai sur le mot stupide plus tard, parce que dans l'enseignement, beaucoup de nos élèves, et peut-être même certains des enseignants, se croient parfois stupides. On leur a tellement fait croire qu'ils étaient stupides. Et puis une dernière phrase, toujours ici, ce n'est pas textuel, mais c'est inspiré de nouveau d'Einstein, qui disait « Les préjugés et la routine sont les principaux freins à la libération des potentialités des personnes. » Et c'est ça, effectivement, qui freine toutes les possibilités de changement au sein de son groupe d'appartenance, mais au sein, évidemment, des institutions. Voilà trois phrases que je voudrais mettre en exergue et en inspiration en dessous des propos que je vais tenir ce soir. Les besoins qui m'ont été exprimés à travers Madame Drouf seraient les suivants. Quels sont les concepts de base de l'approche par compétence en liaison avec l'évaluation ? Des connaissances, des procédures, jusqu'aux compétences et même jusqu'au savoir-être, ce que j'appelle le savoir-être, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et au savoir-devenir, se mettre en projet. Une conception dépassée, c'est évaluer, signifierait simplement mettre une note. C'est une conception totalement tellement dépassée, vous pouvez aller voir les experts depuis maintenant quelques années, cette conception a tout à fait été évacuée des travaux des experts. La docimologie a contribué d'ailleurs à faire évacuer cette définition très restrictive. On m'a demandé aussi de rappeler ce que j'avais fait à Neuchâtel la dernière fois que j'étais venu chez vous, à savoir les trois fonctions qu'on oublie souvent, les trois fonctions de l'évaluation, mais aussi les trois démarches de l'évaluation, parce que dans la pratique encore, nous confondons très facilement le pourquoi on évalue et le comment on évalue. Et enfin, deux autres questions qui semblent fondamentales. Comment passer d'une posture de contrôle à une posture de la reconnaissance? Et comment, par conséquent aussi, évaluer les niveaux de complexité des acquis? Voilà toute une série de besoins qui est exprimé à partir de ce qui m'a été communiqué. Je vais essayer d'y répondre, pas de façon question après question, parce que les questions sont étroitement reliées. J'essaierai de ponctuer mon exposé par quelques exemples, mais qui ne sont que des exemples. L'évaluation des compétences, pour l'instant, et je pense que beaucoup de gens ici seront convaincus comme moi, est une préoccupation, voire même un désarroi, à la fois des politiques, des chercheurs et des enseignants. Des politiques qui, et c'est leur job, de prescrire les compétences dans les curriculums, donc de prescrire une approche par compétence. Et maintenant, pratiquement tous les pays prescrivent une approche par les compétences. Certains y sont venus très vite et d'autres un peu moins rapidement. D'avoir prescrit une approche par compétence dans les curriculums sans avoir souvent pensé, et c'est vrai que c'est très difficile, suffisamment, comment évaluer ces compétences. On a souvent prescrit avant de voir comment on allait évaluer. C'est aussi une préoccupation et même un certain désarroi chez les chercheurs, dans le sens qu'ils reconnaissent tous qu'il manque une théorie de la compétence. Et je vais vous montrer, je pense, dans la dia, dans une des dias suivantes, un travail relativement extraordinaire qui vient de sortir il y a quelques semaines, au mois de décembre, à Montréal, sur comment approcher la notion de compétence. On n'arrive pas encore à une théorie de la compétence, mais on se rapproche petit à petit des éléments qui fondent la notion de compétence. Et des chercheurs qui sont des très grands techniciens, très souvent, qui s'obstinent à mesurer la maîtrise des compétences au moyen d'échelles unidimensionnelles. Il est impossible de mesurer, entre guillemets, une compétence sur une échelle unidimensionnelle. Qu'elle soit une échelle de 0 à 100, que ce soit comme dans PISA avec une moyenne de 500, etc., que ce soit sur une échelle de 1 à 6 comme chez vous, une échelle unidimensionnelle ne peut pas bien rendre compte d'une compétence. Et cependant, il faut évaluer, et souvent l'institution nous demande aussi d'évaluer les compétences sur des échelles unidimensionnelles. Alors comment ne pas faire trop de dégâts? Comment ne pas trop biaiser l'évaluation des compétences alors qu'une compétence est nécessairement multidimensionnelle? Je pense que tout le monde comprendra, si je prends l'exemple, par exemple, d'une dissertation. Mettre une note de 0 à 20 à une dissertation, automatiquement, vous allez pénaliser les élèves qui sont non pas très bons en dissertation, ni très mauvais en dissertation, vous allez pénaliser les élèves qui se trouvent au milieu de la courbe de Gauss, entre guillemets, qui sont les plus nombreux. Parce que les uns pourraient manifester de très bonnes dispositions et de très bonnes maîtrises sur des dimensions telles que, par exemple, le fond, mais pas sur la forme, par exemple, pour reprendre des exemples que tout le monde connaît. Et inversement, d'autres peuvent être très, très, très bons sur la forme et pas sur le fond. Et d'autres encore seront très bons en respectant très bien les éléments du contexte et d'autres ne le feront pas. Et donc, c'est très difficile de mesurer de façon valide une compétence sur une échelle unidimensionnelle. Et les techniciens de PISA s'en aperçoivent de plus en plus. D'ailleurs, ils sont de plus en plus prudents. Attention à ne pas dissocier quelqu'un qui aurait une moyenne de 500, une autre de 485, un autre de 515. C'est très difficile, effectivement, à porter une mesure qui soit vraiment, vraiment valide. Et une préoccupation des enseignants, sans doute la vôtre, vous êtes soumis à des injonctions, et je pense que c'est normal qu'on soit soumis à des injonctions. Nous ne sommes pas habitués, nous n'avons pas été formés, ou très bien formés, ou insuffisamment formés, à créer des situations pour évaluer des compétences. Et donc, chacun d'entre nous sommes liés à essayer de dévoiler un peu le génie qui se trouve en nous pour essayer de créer des situations qui correspondent effectivement à une approche par compétence. Alors, je vous ai promis de vous livrer en primeur, je pense que ça n'a pas encore été fait nulle part, les résultats des travaux tout à fait récents où la chaire UNESCO sur le développement curriculaire à Montréal, qui est tenue par Philippe Jonard, a fait cette recherche-ci. Il a d'abord demandé à une équipe autour de lui de rassembler toutes les définitions, tous les écrits sur la compétence, qu'est-ce que c'est qu'une compétence. Et donc, il a fait ce recueil-là dans une vaste littérature. Il a essayé de bien débusquer les contaminations, le fait qu'on définit une compétence par un terme à peu près synonyme, des tas de tautologies, des définitions tautologiques, des choses qui sont extrêmement incomplètes, des synonymies, des fausses oppositions, etc. Et il a proposé alors, à partir de là, une première ébauche de trame conceptuelle de la notion de compétence à des experts, 23 experts issus de 10 pays. Je pense qu'il y avait d'ailleurs un Suisse ou deux, je pense. Oui, il y avait au moins Linda là, faisait partie. J'en faisais partie également. Et cette trame conceptuelle, qui était bien décomposée en éléments, était accompagnée d'un questionnaire avec une échelle d'appréciation à 5 degrés, tout à fait d'accord, jusqu'à pas d'accord du tout, avec des niveaux intermédiaires, et avec la nécessité, en cas d'accord non total, de pouvoir faire des commentaires et justifier le pourquoi des accords. Et tout ça a été collationné par l'équipe de la chaire du développement curriculaire à Montréal, et ceci a donné le tableau suivant. Au centre de ce tableau, vous voyez la notion de compétence, et on dit que la compétence est un processus en construction. Une compétence n'est jamais définitive, n'est jamais arrêtée. Et souvent, un même énoncé de compétence, elle peut se construire déjà dès la maternelle jusqu'encore à un post-doctorat et bien plus tard encore. Et donc, c'est bien un processus en construction par des personnes qui agissent, qui sont dans l'action, qui sont dans des situations, qui sont dans des contextes situationnels et qui nécessitent la mobilisation de toute une série de ressources. Ça, c'est le noyau de la compétence. Et donc, il faut voir quels sont tous les éléments qui viennent influencer ce processus de construction en action, en situation. Et vous avez ce que Philippe Jonard a appelé plusieurs cadres. Il y a le cadre des expériences vécues par chacun, et c'est la raison pour laquelle une compétence chez l'un ne sera jamais la même que la compétence chez un autre. La compétence sera toujours singulière. Parce que les expériences vécues par chacun d'entre nous sont différentes. Nous avons effectivement vécu des situations différentes. Nous avons développé des aspects de compétences totalement différentes. Nous avons des connaissances qui ne sont pas les mêmes. Nous avons vécu par toute une série d'apprentissages, de procédures et autres, qui montrent que nous avons vraiment des expériences vécues très différentes. Et nous pouvons en plus, et c'est ça le cadre des ressources que vous voyez en bas dans le schéma qui vous est présenté, nous pouvons tous faire appel à des ressources externes ou internes, qui peuvent être très différents de l'un à l'autre. Le recours à ces ressources, mais maintenant, par exemple, avec la possibilité d'interroger Internet, cette problématique des ressources externes devient de plus en plus importante. Nous avons vécu aussi dans des situations différentes, et au niveau de l'apprentissage, les élèves d'une classe à l'autre ne sont pas passés par les mêmes situations, par les mêmes exercices, etc. Nous avons aussi vécu des actions différentes, non seulement à l'école, mais en dehors de l'école. Et surtout aussi, nous avons été soumis à des évaluations de nature très, très, très différente. On ne peut pas être de la même façon compétente si, pendant toute une année scolaire, alors qu'on va évaluer des compétences en fin d'année scolaire, Nous n'avons reçu comme apprentissage que des apprentissages liés à des connaissances et à l'entraînement sur des procédures. Il est évident que la compétence qui va en résulter au bout de l'année ne sera pas du même type que si nous avons travaillé régulièrement des situations complexes, si nous avons régulièrement effectué des tâches complexes. Et enfin, un dernier cadre, c'est que nous sommes tous des personnes différentes et nous vivons dans des environnements différents. Une compétence qui s'élabore individuellement ou au contraire dans le cadre d'une équipe de pairs, par exemple, n'aboutit pas au même résultat chez chaque individu d'ailleurs. Et le dernier aspect sur lequel je voudrais souligner, c'est que la petite flèche que vous voyez en bas, qui entoure tout le cadre, montre que toute compétence est un processus en construction qui est donc dynamique et jamais achevé. Et c'est pour ça que la notion de niveau de complexité des compétences qu'on acquiert progressivement est quelque chose d'important sur lequel je vais beaucoup insister. Quelles sont les conséquences de cette recherche dont vous avez la primeur? La première, c'est que la compétence d'une personne à un moment donné est plus facile à apprécier qu'à mesurer. Je sais relativement bien dire quand quelqu'un est compétent, mais j'ai bien du mal à définir sa compétence. Et c'est d'autant plus vrai que les compétences sont individuelles. Le développement d'une compétence est lié à de nombreux cadres de référence, comme je viens de le montrer dans le schéma précédent. Et donc, deux personnes différentes ne sont jamais exposées exactement aux mêmes situations, aux mêmes actions, aux mêmes évaluations, aux mêmes ressources, aux mêmes possibilités de ressources. Et donc, le développement d'une compétence est toujours quelque chose de singulier. Et le caractère complexe et dynamique d'une compétence implique qu'il est préférable, et ceci est important dans mon exposé, d'apprécier les progrès dans le développement d'une compétence, dans le développement du niveau de complexité des compétences. Et je reviendrai sur cet aspect important, comment apprécier les niveaux de complexité d'une compétence, que la conformité à des standards qui seraient idéaux et qui seraient établis une fois pour toutes et dans toutes les situations. Or, il y a une tendance actuelle dans le monde, un peu partout, à définir des standards. Et en général, ces standards sont définis d'ailleurs par des experts, à qui on donne souvent des moyens. Et on arrive à des standards qui se voudraient généraux. Effectivement, d'ailleurs, les explicitations des standards sont en général données en termes très, 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 très généraux, mais qui peuvent s'opérationnaliser de façon extrêmement différente d'un contexte à l'autre, en fonction justement de ces multiples cadres dont je viens de parler dans le schéma précédent qui interagissent. Bien plus que cela, les spécialistes en psychométrie et en édumétrie, donc les spécialistes de la mesure, et vous en avez évidemment beaucoup qui travaillent notamment dans l'élaboration des épreuves internationales, comme PISA par exemple, ou dans les épreuves nationales, ARMOS en Suisse par exemple, qui sont des gens en général très très compétents dans leur domaine, tentent en vain, malheureusement, de trouver un modèle de validation des compétences qui serait vraiment valable pour toutes. Avec mon collègue François-Marie Gérard, nous avons fait la démonstration qu'il était impossible, à travers ce que les techniciens appellent le modèle de la théorie de réponse à l'item, je ne vais pas l'exposer ici, je veux bien en parler lors de la discussion à certains s'ils le désirent, eh bien, on peut montrer que la théorie de la réponse à l'item, qui est actuellement utilisée pour tenter de valider les propositions d'items, de tâches qui sont mises dans les épreuves nationales et internationales, eh bien, ne parviennent pas à éliminer toute une série de biais. En Suisse, par exemple, avec les essais d'Amos, on a très, très bien vu que les spécialités des cantonales, les spécialités culturelles, une langue, c'est une façon de parler, que ne pouvaient pas être pris parfaitement en compte, au point que si on voulait les prendre en compte, il faudrait gommer tout, il ne resterait plus qu'un squelette vide dans les épreuves nationales. Et donc, vous voyez que je mets en évidence la complexité de la chose, et cependant, je pense que personne ne pourra nier qu'il faut développer des compétences. Et donc, qu'il faut apprendre à être compétent, à être progressivement de plus en plus compétent, puisque c'est un processus dynamique, et qu'il faut quand même aussi évaluer les compétences. Et donc, on va essayer d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce que l'on peut faire malgré l'ensemble de ces difficultés? Et c'est pourquoi il faut développer pas mal de créativité et de réalisme. Au moins, l'essentiel, c'est que tout le monde sera plus ou moins d'accord, à peu de choses près, sur l'idée que pour développer une compétence, et donc évaluer une compétence, il faut forcément qu'il y ait des situations complexes, que ces situations sont l'objet, effectivement, d'effectuation de tâches complexes. Donc on est dans des situations problèmes avec des contextes, avec des éléments dans le contexte, et d'autre part, des tâches qui sont non pas simplement des simples démarches à exécuter, mais qui sont des tâches complexes qui vont demander la combinaison de pas mal de démarches. Donc, premier élément, il y a toujours des situations-problèmes, et donc toujours des éléments de contexte et des tâches complexes à donner. Autre élément essentiel, on ne peut pas effectivement effectuer ces tâches complexes dans des situations complexes si on n'a pas un certain nombre de ressources. Ces ressources peuvent être des connaissances, peuvent être des démarches, peuvent être des compétences déjà vues antérieurement, mais aussi souvent des savoir-être tels qu'il faut s'engager dans la tâche, par exemple. Il faut avoir acquis aussi un certain nombre de dispositions en termes de savoir-être. Et troisièmement, il ne suffit pas d'avoir ces ressources. Très souvent, on a cru que si on enseignait les ressources automatiquement, les situations problèmes, les tâches complexes pouvaient être effectuées. Et ce n'est pas vrai. Le plus important, justement, dans le métier, dans le professionnalisme du formateur et de l'enseignant, c'est d'apprendre à mobiliser ces ressources pour pouvoir effectuer ces tâches complexes en situation. Et là, la recherche, elle patine un peu. Dans certains domaines dont on a tellement utilisé qu'on parvient à dégager effectivement des démarches en termes de processus de mobilisation, mais on est encore quand même très loin. Et donc, c'est souvent par la pratique, par l'expérience, par l'analyse, par l'observation, et surtout par la mise fréquente en situation que l'on parvient à développer des processus de mobilisation lents au départ et de plus en plus rapides. On parvient à combiner deux démarches et puis trois démarches et puis dans des ordres très, très différents. Donc ça, c'est le noyau de la compétence. Il faut des tâches complexes en situation. Et donc l'importance de bien penser les situations. Il faut évidemment penser à quelles sont les ressources qui vont devoir être utilisées pour effectuer ces tâches complexes. Et il faut se pencher beaucoup sur comment va-t-on mobiliser ces ressources pour effectuer les tâches complexes. Le niveau de complexité d'une situation, et donc j'essaie de répondre là à des préoccupations qui sont les vôtres, dépend de plusieurs choses. Du niveau de complexité des situations, problèmes présentés ou des tâches à effectuer. Par exemple, si les tâches demandent de combiner beaucoup de démarches successivement, c'est évidemment beaucoup plus complexe que si je dois simplement combiner deux démarches dans un bon ordre. Les situations sont d'autant plus complexes, les contextes dans lesquels on travaille sont d'autant plus complexes que Eh bien, dans le contexte, dans la situation présentée, il y a beaucoup d'informations parasites. Or, nous avons l'habitude, dans l'enseignement, de ne présenter aux élèves que des situations où il y a toutes les informations indispensables, et rien que ces informations indispensables, et pas des informations parasites. Et c'est tellement vrai qu'on montre qu'il y a des études, maintenant, qui montrent que si on ne donne chaque fois que toutes les informations indispensables, et rien que les informations indispensables, eh bien, les élèves vont s'arranger. Une fois qu'on leur donne une situation où il y a d'autres informations que les informations indispensables, ils vont s'arranger pour utiliser toutes les informations que le prof a données. Et ils vont faire là des choses extrêmement aberrantes. D'autant plus qu'on ne leur demande pas suffisamment de réfléchir et de justifier le pourquoi ils ont utilisé ces données et les démarches qu'ils ont faites. C'est aussi donc la complexité dépend de la complexité des situations, elle dépend de la complexité des tâches, elle dépend aussi évidemment de la complexité des ressources, mais ça je pense que tous les enseignants ici sont habitués à cela. Et donc ces ressources sont surtout évidemment des connaissances. Attention, je voudrais quand même distinguer, comme le font les didacticiens, surtout les didacticiens des sciences, mais c'est valable pour toutes les disciplines, il faut distinguer entre une connaissance qui est une connaissance information à restituer. Je peux restituer une règle de grammaire, par exemple, et de la connaissance qui est une connaissance réellement construite par l'élève. Ce n'est pas parce que je récite une règle de grammaire que j'ai, en quelque sorte, que je me suis approprié cette règle de grammaire. Ce n'est pas parce que je suis capable de restituer une loi scientifique qui m'a été enseignée au cours que j'ai compris le concept en question. Je peux très bien définir la pesanteur sans avoir construit la notion de pesanteur. Et donc, je fais une différence entre des connaissances qui sont simplement restituées, des connaissances qui sont construites. Ou alors, évidemment, ce qui est beaucoup entraîné, enseigné dans nos écoles, ce sont aussi les procédures. Évidemment, les connaissances et les procédures sont tout à fait indispensables, mais c'est déjà intéressant de se poser quelles connaissances et quelles procédures, quelles applications, quels exercices sont fondamentaux pour essayer d'effectuer les tâches dans des situations bien précises. Rien que se définir des familles de situations problèmes, par exemple en français, écrire une lettre pour demander des informations et organiser par exemple quelque chose, ce n'est pas la même chose que de rédiger par exemple une narration. Donc définir convenablement les familles de situations problèmes et de voir quelles sont les ressources nécessaires. Et puis, la complexité dépend aussi du processus de mobilisation suivant le nombre de démarches impliquées dans le processus de mobilisation. Et donc, vous voyez que élaborer le niveau de complexité, ça demande qu'on se penche sur un certain nombre d'éléments. Et après ça, vous voudriez mesurer de façon valide sur une échelle unidimensionnelle une compétence. Il y a cependant moyen de tenir compte des injonctions institutionnelles en essayant d'apprécier des niveaux de complexité et donc sans doute des niveaux en quelque sorte sur des échelles comme 1 à 6 par exemple, on en discutera sans doute. Je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a été demandé de refaire parce que ceci fait bouger beaucoup les enseignants, il paraît que certains d'entre vous ont bougé dans le sens que je vais dire. Je présente souvent ceci dans des formations avec des enseignants ou des formateurs, en présentant toute une série de tâches qui sont présentées dans des épreuves d'évaluation. Écrivez l'aire d'un rectangle et expliquez, tracez un triangle rectangle, complétez le schéma suivant en inscrivant à côté de chaque flèche la partie concernée de l'oreille. Donc vous faites le schéma de l'oreille avec des flèches et les élèves doivent compléter. Expliquer la démarche à suivre pour résoudre une équation du second degré, énoncer la règle de l'accord du verbe avec le sujet, quels sont les éléments que l'on doit retrouver dans toute lettre. Voilà, c'est une série vraiment de tâches. Vous devinez, elles sont très très simples. On passe déjà à un niveau supérieur quand on voit des tâches telles que celle-ci. Calculer l'aire d'un rectangle de 22 mètres de long et de 6 mètres de large. Accorder les phrases suivantes, accorder le verbe avec le sujet. Laurence et Pierre s'accordaient sur les règles du jeu. C'est Pierre et moi qui jouaient la première manche. On rencontre ça de multiples fois dans les épreuves d'évaluation, dans les examens, etc. En utilisant les termes techniques adéquats, comparer le système de reproduction de l'amibe et de l'hydre d'eau douce. C'est une question que j'ai eue 3 fois dans ma vie d'étudiant. 2 fois secondaire et 1 fois en première année d'université au cours de biologie. 5x plus 16x élevé au carré égale 1x plus 72, résolvez cette équation. Classez ces images dans le bon ordre. Vous reconnaissez des questions que vous posez. Elles sont déjà d'un autre niveau que le premier extrait. Troisième niveau, le jardin que je veux louer à mon voisin a une forme rectangulaire avec 22 mètres de long et 6 mètres de large. Ce sont les mêmes données que précédemment. Calculer l'aire de ce jardin. Et cependant, il y a une différence entre cette question-là et la question de la DIA précédente. Voici les températures moyennes journalières des mois de décembre des années 2008 et 2009. Ces températures sont données à l'élève. Quelle hypothèse est la plus vraisemblable? Plus froid en 2009, plus froid en 2008, peu de différence? Faites un graphique pour choisir votre hypothèse, à partir des données que je n'ai pas évidemment rapportées sur la DIA. Lors d'un test, on demande à un enfant de 5 ans, 9 mois, de ranger 5 bandelettes de grandeur différente, de la plus petite à la plus grande, et l'enfant donne la réponse suivante, que vous voyez représentée. C'est classique. Évidemment, si l'enseignante ne prend pas la peine de faire cette petite tâche à l'enfant sur, par exemple, un tapis plein, une grande surface unie, elle risque d'avoir des réponses comme ceci, parce que si vous faites ça sur une table, par exemple, l'enfant va se servir du bord de la table et va faire un très bel escalier. Ici, l'enfant a fait un escalier, mais il n'était pas sur une table, il n'avait pas de point de référence. Donc, ça veut dire que l'enfant n'a pas maîtrisé la conservation de la quantité. Je pense que beaucoup d'enseignants ici connaissent très, très, très bien ça. On est ici dans ces extraits 3, dans des tâches que je pourrais multiplier, dans un niveau de complexité qui est différent des deux précédents. Extrait 4, voici la forme et la mesure d'un jardin. On retourne ici maintenant quelque chose de nouveau, de concret. Un voisin propose de le louer à son propriétaire à une somme de 3/4 d'euros par mètre carré l'an. Quel est le montant total? Les 3/4 d'euros, vous voyez, je ne me suis pas permis de modifier en fonction du franc suisse. Quel est le montant total du loyer annuel proposé? C'est un loyer qu'on demande effectivement dans des cités-jardins, etc. Et vous voyez cette forme qui est complexe. Hein, on peut y voir un rectangle, on peut y voir des triangles. On pourrait y voir encore d'autres formes. Il y a même un carré, si vous prenez le triangle du haut, le triangle du bas, ils ont la même dimension. Vous voyez qu'il y a quelques dimensions, pas toutes. Et donc, l'élève va devoir analyser le problème. Il va devoir identifier les informations nécessaires. Il va devoir les combiner. Il va devoir analyser la situation. Il va décomposer, par exemple, le jardin qui a cette forme spéciale-là, etc. Voici un texte de Victor Hugo, une question que j'ai vue souvent au niveau du secondaire, dont il manque le dernier paragraphe. Mettez-vous à la place de Victor Hugo et rédigez-le. Donc le but de l'enseignante, c'est évidemment de pouvoir reconnaître un peu, non seulement le style de Victor Hugo, c'est un de ses objectifs, mais le deuxième objectif, c'est évidemment d'être cohérent avec les paragraphes précédents. C'est le genre d'exercice qu'on voit très fréquemment en didactique du français notamment. En vous aidant de schéma, énoncer et justifier les conséquences possibles d'une infection du tympan selon que celle-ci a été constatée par le médecin très rapidement, dans les quelques heures, ou très tardivement, environ une semaine. Et donc, vous voyez qu'on est là lié à le temps qui est très important au niveau des infections. Voilà. Trois questions parmi beaucoup d'autres que vous pourriez ajouter, extrait 4. Extrait 5. Vous allez voir qu'on rentre encore dans un autre registre. J'ai observé régulièrement Pierre, il me remet des devoirs ou des copies toujours bien soignées. Par contre, Jacques ne me remet des copies ou des devoirs soignés que si je l'ai menacé de ne pas les corriger. Autre chose, Alice a de moins en moins confiance en mathématiques. Dès qu'il a la moindre difficulté, Xavier demande à l'enseignant comment faire, contrairement à Gérard qui cherche avant d'interroger l'enseignant ou un autre élève. Chaque fois que Pierrette est au service d'urgence, ça c'est pour la formation des infirmières et des médecins, chaque fois que Pierrette est au service d'urgence et qu'elle doit accueillir une maman angoissée parce que son enfant semble gravement malade ou blessé, elle est dépassée par les événements, contrairement à Jacqueline. On est dans un autre registre. Et là, la question, et je m'avance déjà, la question du temps est extrêmement importante, et je vais y revenir en essayant de synthétiser ces extraits. Et enfin, dernier. L'enseignant dit à ses élèves que la commission scolaire accepte de consacrer une journée entière à une sortie à condition qu'elle remplisse un double objectif. Premièrement, apprendre quelque chose de nouveau que l'on ne peut apprendre en classe. Et deuxièmement, participer à des activités ludiques. L'enseignant demande à chaque élève de rédiger une proposition concrète et réaliste pour la semaine prochaine. Ou alors, une autre chose, rédiger un article pour le journal local présentant une activité originale menée à l'école. Faire un mémoire de fin d'études, ce que sans doute vous avez fait. Rédiger un chef-d'œuvre en fin de formation professionnelle. On est là, de nouveau encore, dans un autre registre. Alors, je vais essayer de synthétiser ça, parce que la question du niveau de complexité des tâches que l'on peut proposer aux élèves, eh bien, elle est différente d'une tâche à l'autre. Alors, pour synthétiser, si vous prenez le premier extrait, citez-moi, par exemple, la règle de grammaire de l'accord du verbe ou du sujet, par exemple, dans ce genre de tâche-là, on est bien au niveau du savoir-redire, je regarde mon montre, oui, oh là là, du savoir-redire des choses qui ont été enseignées ou qui ont été lues, et que je dois savoir, à juste titre d'ailleurs, très souvent. C'est ce qu'on appelle souvent des connaissances, mais attention, ce sont des connaissances informations. Ce ne sont en général pas des connaissances construites. Et donc ce sont ce que les experts et les psychologues cognitivistes disent des connaissances déclaratives. Moi, ce que j'appelle tout simplement avec les enseignants, c'est du savoir restitué des connaissances, des informations. Si vous prenez le deuxième extrait, il s'agit de calculer l'aire, par exemple, d'un rectangle de 22 mètres de long et 6 mètres de large. On est bien ici dans le savoir appliquer des démarches. On est bien dans l'ordre des démarches, des applications, des choses qui sont nécessaires, qui vont devoir être mobilisées dans des tâches beaucoup plus complexes et pour lesquelles il faut être entraîné. Si je ne connais pas ma table de multiplication, il est clair que je vais avoir des problèmes. Si je ne connais pas les règles d'accord du verbe et du sujet, si je ne connais pas les éléments essentiels pour pouvoir mener une équation, je ne pourrais pas la faire. Troisième élément, c'est exactement la même chose, mais on a introduit dans l'énoncé de la tâche un contexte. C'est tellement vrai maintenant que les épreuves nationales qui sont présentées en communauté française de Belgique et qui sont à bien des écarts très intéressantes, eh bien, donne dans l'épreuve nationale un portfolio. Les portfolios comprennent 10, 12, parfois 15, 16 pages, avec toute une série d'informations, de situations, et les questions qui sont posées, que ce soit des questions de niveau 3 ici, comme je suis en train de les exposer, ou des questions, par exemple, de niveau 4 sur lesquelles on va arriver, eh bien, l'élève va devoir aller chercher les informations dans son portfolio de situations, de données. Alors, on y trouve des... Je pense au dernier que j'ai lu, par exemple, on va faire une excursion dans un parc là-bas, on donne des informations sur les prix, sur les réductions, sur les horaires, etc. Et donc, la communauté française de Belgique donne vraiment des portfolios de situations qui peuvent ensuite être réexploités, évidemment, les années suivantes par les enseignants. Un niveau 4... Souvenez-vous de ce jardin qui avait une forme spéciale. Là, on combine différentes formes géométriques, différents types de mesures, différentes contraintes. On va devoir mener toute une série de démarches successives. Là, on est véritablement au niveau non pas d'une tâche simple comme au niveau 2, au niveau 3, qui sont des démarches simples, le niveau 2 non contextualisé. Niveau 3, je donne un contexte. Niveau 4, il y a un contexte, mais les tâches sont complexes dans le sens où je vais devoir combiner différentes démarches, différentes connaissances pour pouvoir la résoudre. Là, on est au niveau vraiment de ce qu'on appelle une compétence. Maintenant, cette compétence-là pourra de nouveau être plus ou moins complexe en fonction, effectivement, du nombre d'éléments de la situation, dont du nombre d'éléments parasites de la situation, en fonction de la complexité de la tâche, du nombre de démarches successivement à coordonner, d'abord à trouver, puis à coordonner, etc., et en fonction de la difficulté liée aux ressources, que ce soit des connaissances ou des démarches qui sont impliquées dans la résolution du problème ou dans l'effectuation de cette tâche. Et puis, souvenez-vous, on est par après, je reviens vite en arrière pour que vous ayez... J'ai observé régulièrement Pierre, il me remet des devoirs, des copies toujours bien soignées. Par contre, Jacques ne me remet des copies, des devoirs soignés que si je le menace de ne pas le corriger, etc. Ce type de choses-là, vous voyez que ce ne sont pas en quelque sorte des tâches qui sont ici imposées à un moment donné. Mais ce sont des tâches, des choses à faire dans la durée. Parce que le savoir-être, c'est une disposition, c'est une action, c'est un comportement qui est intériorisé, qui se fait naturellement en situation. On est toujours en situation. Ce sont des comportements habituels intériorisés qui traduisent d'ailleurs des valeurs de la personne. Et les comportements habituels intériorisés sont très importants dans la vie. Ils sont très importants pour le métier d'étudiant. Ils sont très importants, comme l'a dit monsieur le directeur au départ, notamment pour la formation à la citoyenneté, etc., pour des tas de choses. Moi, je sais que beaucoup d'employeurs n'engagent des gens que sur leur comportement habituel intériorisé quand ils parviennent effectivement à les connaître. Et on ne peut pas, et ça c'est une règle d'or, on ne peut pas évaluer un savoir-être seulement à un moment précis. Ce n'est pas évaluable par écrit. Ce n'est pas évaluable par une observation ponctuelle. Un inspecteur qui vient évaluer le savoir-être d'un élève ou de son enseignant dans une classe ne peut pas le faire par une visite. Un savoir-être, c'est l'objet de multiples observations répétées. Et enfin, la dernière catégorie, là on est vraiment dans l'ordre de projet. J'ai entendu dans ce que Mme Dros m'a dit, des missions. Là, ce sont effectivement des tâches relativement complexes, avec beaucoup de liberté d'ailleurs, et qui mettent les élèves individuellement, collectivement, en projet, et qui donc sont des compétences de niveau extrêmement complexe, où parfois l'enseignant apprend autant avec ses élèves que les élèves eux-mêmes. Les apports de ce tableau, c'est une piste partielle, je suis très prudent, je dis bien partielle, pour répondre à la question comment, par exemple, établir deux deux groupes de niveaux, puisque vous devez, je ne sais plus à quel niveau d'études, établir des niveaux 1 et 2 en français et en maths. C'est sans doute à travers l'examen du niveau de complexité des situations, des tâches, des ressources, des connaissances, des démarches, et surtout des processus de mobilisation, le nombre de démarches, me semble-t-il que vous pourriez peut-être trouver les pistes pour établir effectivement des niveaux 1 et 2 en français et en mathématiques. En sachant que c'est évidemment pas évident, mais nous sommes dans des métiers de l'humain, donc dans des choses qui ne sont pas évidentes. Et donc le problème, c'est la distinction entre le niveau 1 et 2. Est-ce que c'est seulement une question de complexité de la démarche? Par exemple, la tentation très simple, ce serait de dire, je mets dans un niveau celui qui maîtrise des niveaux de complexité suffisamment de la compétence, et dans l'autre niveau, uniquement ceux qui ne maîtrisent la ressource, mais pas les compétences. Là, il y a une réflexion à faire. Est-ce que ceci est valable? Je n'ai pas la réponse immédiate. Hein. Alors, comment évaluer une compétence? Quels sont les stéréotypes, les routines qui sont vraiment des obstacles? Donc, évaluer serait de mesurer par une note. Mettre une note, ce serait faire une somme de points obtenus à une série de questions. Pour cela, il faudrait qu'on ne mélange pas des pommes, des poires, des prunes, etc. Que toutes les questions aient même valeur. Et que donc, on n'utilise que des micro-questions. Donc, ça veut dire que vous n'évaluerez jamais une compétence en faisant cela. Que mettre une note serait objectif. Il n'y a rien de plus subjectif qu'une note, y compris avec des QCM. Parce que qu'est-ce que vous mettez dans le QCM? Qu'est-ce que vous mettez effectivement dans les réponses proposées? Une même note chez deux élèves signifierait un même niveau de performance. Mais je pense que si vous le savez bien, deux élèves qui ont un 4 n'ont pas nécessairement du tout le même profil. Hein? Or, les travaux de l'évaluation montrent que évaluer, c'est bien plus que mesurer. Évaluer suppose de bien d'abord distinguer les fonctions de l'évaluation, le pourquoi on évalue, et les démarches de l'évaluation, le comment. Ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et d'autre part, la compétence est multidimensionnelle, et on tente de l'évaluer sur une échelle multidimensionnelle. Et on est obligé institutionnellement de mettre des notes unidimensionnelles. Alors comment tenir compte de ça? On va essayer de réfléchir ensemble. Par rapport, il y a eu beaucoup de définitions de l'évaluation. Maintenant, je pense qu'une des plus complètes, des plus précises est la suivante. Évaluer, ça suppose quatre processus et non pas deux. Recueillir un ensemble d'informations, c'est examiner le degré d'adéquation de ces informations avec un référent, en quelque sorte, un référentiel. Ça, c'est assez classique. Mais il ne faut pas oublier deux autres démarches, c'est d'attribuer un sens au résultat de la confrontation des informations avec un référentiel. Et la dernière, c'est en vue de fonder une prise de décision et non pas de porter un jugement sur la personne. Et donc, fonder une décision, il s'agit de quelle décision les enseignants sont amenés à devoir prendre, quel type de décision sont-ils amenés à prendre lorsqu'ils évaluent. Et ce sera les fonctions, le pourquoi de l'évaluation. Je reviens un peu en arrière, recueillir un ensemble d'informations, il faut qu'elles soient pertinentes, hein. Il faut qu'elle soit utile pour servir à ce que l'on veut faire. Il faut qu'elle soit valide. Il faut prendre des informations. Les informations qu'on prend réellement sont bien celles qu'on déclare prendre, si je dois me justifier. Il faut qu'elle soit fiable. Ça ne dépend pas de celui qui recueille l'information. Examiner le degré d'adéquation par une démarche adéquate entre l'ensemble d'informations récoltées, elles peuvent être multiples. Elles peuvent déborder, par exemple, ce qui est écrit dans la feuille de l'élève. Souvenez-vous, les expériences antérieures des élèves sont extrêmement importantes. Et un ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés. Est-ce que les objectifs fixés sont bien d'évaluer, par exemple, des compétences? Mais à quel moment, etc. Et surtout, attribuer du sens aux résultats. Et donc, une note n'a pas de sens, ou pas beaucoup de sens en elle-même. Le fait qu'on me dise 5 ou 6 ou 3 ou 4, ça me donne très peu d'informations, si ce n'est que je considère qu'il y a une performance qui est meilleure que l'autre. Mais quelle est cette performance? En quoi est-elle meilleure, etc. Et en vue de prendre une décision, et ça je vais revenir sur les fonctions de l'évaluation. Et donc, quand on évalue, il faut toujours poser les questions fondamentales, quand, quoi, pourquoi et comment. Le pourquoi en deux mots. Quand évaluer, est-ce que c'est au début d'une action nouvelle? Une action nouvelle, je démarre une année, c'est une action nouvelle. J'ai fini les apprentissages liés à un champ donné, je sais pas moi par exemple, la multiplication, je vais passer à un autre champ, eh bien je vais entamer une action nouvelle. Quoi évaluer? Quel niveau qualitatif? Quel niveau de complexité comme on l'a vu? Et pourquoi évaluer? C'est là qu'interviennent les fonctions sur lesquelles je vais m'attarder ici un peu maintenant. Et comment évaluer? Avec quelle démarche? Et là, de nouveau, on confond beaucoup fonctions et démarches. Trois fonctions. Ce que j'appelle l'orientation, que dans le temps, on appelait diagnostic, avec une erreur de sens tout à fait dommageable, qu'on appelait prévisionnel, prédictif, tout ce que vous voulez. Je pense que le terme le plus adéquat, c'est je vais évaluer au début d'une action nouvelle pour orienter, pour préparer cette action nouvelle. La fonction de régulation, qui est formative ou formatrice, là vous avez, suivant les termes employés par les uns et les autres, je pense que le terme de régulation étant la plus adéquate, on évalue pour améliorer une action en cours. Elle n'est pas terminée. Et souvenez-vous qu'une compétence n'est jamais terminée, n'est jamais acquise, elle peut toujours, c'est un processus qui peut se complexifier davantage. Et cependant, il faut parfois, au terme d'un parcours, pour des raisons institutionnelles, sociales, légales, il faut pouvoir certifier au terme d'une action qui est censée achever, ça ne veut pas dire que le processus de construction de la compétence est achevé, il faut pouvoir certifier un degré de maîtrise, un degré de complexité de ce qui a été appris. Et trois démarches. La seule que beaucoup d'enseignants connaissent, et j'espère que c'est de moins en moins le cas en Suisse, c'est la démarche sommative, qui consiste à mettre une note, et à faire des sommes sur des bouts, des questions, des sommes pondérées ou pas pondérées. Et vous changez complètement la note de quelqu'un suivant que vous la pondérez d'une façon ou d'une autre. Alors qu'il existe deux autres démarches, qui est la démarche descriptive, d'écrire effectivement les acquis ou les forces, les difficultés, etc. C'est de la description. Je n'ai pas besoin de notes pour décrire ce qui est acquis. Ou la démarche interprétative, que je vais appeler, le terme n'est pas encore bien installé chez les experts, certains l'appellent intuitive, d'autres clinique, d'autres herméneutique. Le terme qui semble être maintenant le plus utilisé, c'est la démarche interprétative, où on donne du sens à tout ce qu'on a récolté, traité, et donc on peut avoir des indices, on peut avoir des notes, ça peut être des informations qui apportent certaines choses, par exemple que c'est grave ou c'est pas grave éventuellement, mais aussi des indices qualitatifs, descriptifs. Et là, on donne du sens à des indices divers. Et il vaut mieux, effectivement, d'interpréter sur de multiples indices que de donner aveuglément une note, sur quelque échelle que ce soit. Et donc, vous avez ici une combinaison de démarches et de fonctions où il y a 9 possibles. À savoir, on peut orienter en décrivant ce qui est acquis avant de commencer une nouvelle action, un prérequis par exemple. On peut réguler à travers la description des forces, des difficultés, des procédures qui ont été faites par les élèves, par les démarches moi-même que j'ai menées dans l'apprentissage des élèves, par les situations que j'ai proposées, etc. On peut certifier de façon descriptive. Je me souviens très bien, il y a au moins 10, 15, 20 ans de cela, travailler avec une commission d'évaluation des formations professionnalisantes à Genève. Eh bien là, ils n'avaient pas confiance du tout dans les notes apportées par les écoles. Hein. Ils voulaient simplement qu'il y ait un certificat descriptif des compétences, des connaissances qui ont été acquises. Ça intéresse beaucoup plus l'employeur que de savoir que deux élèves ont eu, je ne sais pas, telle note, alors qu'ils sont peut-être extrêmement différents. On peut aussi faire de l'orientation, parfois, par sommation. Simplement compter le nombre de prérequis maîtrisés. Mais ça donnera moins d'informations que la liste de ces prérequis maîtrisés au début d'un nouvel apprentissage. On peut utiliser des petits tests notés lors de la régulation, mais sachez très bien que ça aura beaucoup moins données d'informations que si l'on décrit l'intérieur du test. L'intérieur du test est plus important que la note finale. Et on peut forcément certifier, c'est même obligatoire de certifier par une approche sommative. Mais va-t-on se contenter d'une approche sommative pour la certification? Je pense que ce serait une erreur que de ne se contenter que d'une approche sommative. Et après, une approche herméneutique ou interprétative ou clinique et intuitive, c'est-à-dire on va servir de tout ce qui est disponible et on va essayer de donner du sens. Et si possible, pas tout seul, quand c'est possible. Alors, je vais peut-être directement passer à des exemples d'orientation, parce que je pense que j'abuse de votre temps. Je vais vous présenter un exemple qui intéressera sans doute les enseignants ici présents, qui sont dans les premières années. Eh bien, je pense que tout le monde, maintenant, toutes les enseignantes sont plus souvent des femmes que des hommes en maternelle. Les enseignants, par exemple, dès la première année de scolarité primaire, eh bien, sont d'accord pour dire qu'il y a des prérequis tout à fait essentiels pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre à calculer. Et donc, on connaît maintenant ces prérequis, c'est le vocabulaire spatial. J'ai avec moi une épreuve. Je pensais vous la présenter, mais je n'ai pas le temps de la présenter, mais je peux en parler lors de la discussion. Il y a la discrimination figure-fond, il y a le vocabulaire l'addition, etc. Et donc, j'ai intérêt en début d'année, par exemple au début de l'enseignement primaire, et sans doute peut-être alors à la fin de l'école maternelle, et là on est plus alors déjà dans la certification, mais on est dans l'orientation au début de l'année suivante, c'est de dire, ben, je ne vais pas commencer trop vite, de suite, des apprentissages en lecture, écriture et en nombre, par exemple, sans avoir vérifié un certain nombre de prérequis. Et donc, pour le vérifier, c'est très simple. Il suffit, par exemple, le vocabulaire spatial, vous présenter un premier dessin qui représente un jardin avec un ou deux arbres, avec des oiseaux, et vous dites, mais vous allez repérer l'oiseau qui se trouve en haut à gauche. Un autre dessin, vous allez représenter, par exemple, un autre dessin, voire même le même dessin, et vous allez demander une autre tâche avec un autre vocabulaire spatial, au milieu, par exemple, etc. Et donc, il y a toute une série de prérequis dont vous voyez la liste ici, sur lesquels il suffit de présenter 3 petites tâches simples pour que l'on puisse vérifier si on peut démarrer effectivement des apprentissages fondamentaux ou s'il ne faut pas, pour certains élèves, donner un certain nombre de tâches complémentaires à faire, éventuellement avec un autre enfant, tuteur, etc. Et donc c'est important de faire ça, avec la règle suivante, c'est que quand on donne trois tâches, on peut espérer que s'il y a au moins, surtout pour des enfants qui sont facilement distraits, il faut au moins espérer qu'il y ait deux tâches réussies sur trois pour dire oui, je pense que ce prérequis-là, le vocabulaire spatial, est maîtrisé. Ou bien, par exemple, pour prendre le dernier, la précision graphomotrice. Vous dessinez des circuits, vous pouvez le faire d'abord sur la cour de récréation, et puis sur papier, dessiner des circuits hein, fermés, et vous dites, voilà, on dessine une automobile à l'endroit du circuit, eh bien, il faut parcourir tout le circuit. L'automobile doit parcourir tout le circuit, arriver à son point de départ, sans cogner les murs du circuit, sans sortir du circuit. Et vous allez, avec votre crayon, tracer le parcours de la voiture sans cogner les murs. Donc, des exercices comme ça permettent de vérifier la précision graphomotrice, qui est tout à fait indispensable, notamment pour le travail d'écriture et même pour la lecture. Pour la régulation, par exemple, de nouveau, il est vrai que la régulation porte souvent sur des connaissances ou des démarches, c'est tout à fait normal. Mais il est bon aussi de prévoir des situations de régulation sur des situations qui sont de complexité différente. Je vais vous donner un exemple qui est trop peu souvent utilisé. Nous savons tous que beaucoup de nos élèves, et parfois encore à un niveau avancé, ont des difficultés avec, par exemple, des procédures de soustraction. C'est bien une procédure. Si on a observé attentivement ce que font les élèves, on voit que certains élèves, dans certains cas, ne commettent pas d'erreur et dans d'autres cas, le commettent. Et en réfléchissant, en lisant un peu, en s'informant auprès des collègues, on s'aperçoit que très souvent, c'est la position du zéro en deuxième position qui pose problème. Et plutôt que de donner 10 opérations au hasard, ce que l'on fait souvent dans des processus d'évaluation formative, plutôt que de les donner au hasard, réfléchissons aux sources d'erreurs. Et vous allez sans doute être d'accord de dire que suivant qu'il y ait une retenue ou pas une retenue, ça peut être une source d'erreur. Et donc, aucune retenue, une première retenue, éventuellement une deuxième retenue, c'est encore peut-être plus compliqué. Une deuxième source d'erreur, c'est par exemple de dire « il n'y a pas de zéro dans les nombres qui sont présentés » ou « il y a zéro en unité » ou « il y a zéro dans la position de la dizaine ». Et effectivement, vous inventez des opérations qui, au croisement de ces deux paramètres, vont apparaître dans les cases, et vous allez les demander, vous les mettez au hasard, et puis après, au tableau, par exemple, vous remettez les opérations dans ce tableau-là, et vous allez voir automatiquement, chez les élèves, si on voit, où se trouve effectivement la difficulté pour lesquelles il faudra entrevoir des exercices complémentaires. Et on peut lire, on peut faire le diagnostic en ligne, on peut faire le diagnostic en colonne, et le croisement, par exemple, il est clair que la dernière case, c'est un cas sans doute parmi les plus difficiles. Et donc, l'évaluation-régulation, ça implique très souvent beaucoup d'observations, et qu'on se demande, mais quels seraient les sources, les paramètres possibles de difficultés. Je peux faire la même chose si je présente des situations et des tâches complexes. Je peux combiner les sources de complexité de ces situations et à partir de là, construire des épreuves et analyser les différentes productions au fil du temps. Je verrai effectivement d'un point de vue diagnostique ce sur quoi il me faut travailler pour faire progresser, puisqu'une compétence, eh bien, c'est un processus en construction jamais achevé. je dois arrêter, je pense. Malheureusement, je voudrais vous présenter notamment la posture de la reconnaissance. Je n'ai pas le temps ici. Puis-je présenter une ou deux dias? Oui. Vous voyez que la réflexion prend du temps, effectivement. J'aurais voulu aussi vous présenter un bulletin descriptif qui est fait dans les écoles internationales américaines, remarquable. J'aurai peut-être l'occasion de parler dans la discussion. La posture de la reconnaissance, c'est lutter contre une posture de mépris qui a été mise en évidence par un grand philosophe allemand qui est Axel Honneth et qui a été beaucoup travaillé en termes de posture de reconnaissance avec Paul Ricoeur. Et qui disait que, à travers notre comportement d'enseignant ou de formateur vis-à-vis de nos élèves, par exemple, mais aussi de nos supérieurs vis-à-vis de nous, hein, on peut le faire à tous les niveaux, très souvent, il y a des postures inconscientes de mépris. Parce que ce sont des comportements qui rendent l'autre invisible. Ne pas voir quelqu'un alors qu'il est là devant moi. Le voir, mais le voir à travers, comme s'il n'existait pas. L'ignorer, c'est encore plus grave. Par opposition, où j'ai quelqu'un, je le vois, je le regarde, je vais vers lui, par exemple. Des tas d'axes expressifs qui disent l'enfant est terrible. L'enfant, dès qu'il sort du ventre de sa mère, eh bien, il décode les actes expressifs des personnes qu'il a devant lui. Et maintenant, les neuropsychologues travaillent beaucoup cela. Et donc, l'impassibilité non verbale, la distance que l'on met vis-à-vis de quelqu'un sur des actes expressifs qui invisibilisent. C'est un mépris inconscient que l'on manifeste, parfois consciemment d'ailleurs. Hein. L'expressivité non-verbale et la proximité, par contre, hein, la proximité vers quelqu'un, l'expressivité non-verbale chaleureuse, etc., l'enfant reconnaît tout de suite si sa mère est chaleureuse ou pas, à travers son regard. Surtout. Le socio-relationnel, le non identifié, considérer l'élève comme un individu, comme un objet, comme un numéro matricule, ou au contraire, l'identifier et le respecter dans son parcours, notamment, pour ce qu'il est, et donc le considérer comme une personne, un sujet, etc. Tout ça, ce sont des éléments importants. Dans l'évaluation, ne voir en termes de produit que les défauts, les fautes, les échecs, la bouteille à moitié vide, voire au contraire les qualités, les pôles d'excellence, les potentiels, les réussites, partir de la bouteille à moitié pleine. On ne construit que sur du plein, sur du visible, sur du positif. Le devenir, la prédictibilité, celui-ci est bon, il restera bon, celui-là est mauvais, il restera mauvais. Croire aux inédits possibles. Je conseille à tous les enseignants de lire le livre de... C'est Denis Pénac, je pense, dont j'ai oublié le titre. Daniel Pénac, j'ai oublié le titre. Chagrin d'école. Comment d'un cancre qu'il a été lui-même quand il était élève, il a fait de quelqu'un de visible. Il a réussi à faire sortir les inédits possibles. Donc, croire en l'éducabilité et non pas en déterminisme de la personne, et donc développer à travers tout ce que l'on fait, mais forcément à travers l'évaluation, une posture de la reconnaissance, c'est quelque chose qui est essentiel à mes yeux. Beaucoup de choses que j'aurais dû dire pour répondre à vos besoins et que je n'ai pas dites, et je m'en excuse. Merci.